Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron de nouveau dans un nouvel épisode de Nos aînés connectés, le dernier de cette belle série d'émissions. Alors avec moi aujourd'hui, on va parler de un petit peu une émission récapitulative justement d'un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre. Et avec moi, j'ai l'équipe de Choc FM, Anaïs Delomel, Guillaume Laurin, Marine Otogali. Comment ça va les amis?
Ça va et toi?
Très bien.
Bah ouais, bonjour, ça Nathalie. Va. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Ouais, ça va super. Enfin arrivé à la fin de ce grand projet. Je dis enfin parce que c'est vrai qu'au final, on a rencontré des difficultés. On s'est rendu compte que parler d'arnaque, ce n'était pas forcément évident, surtout quand on s'adresse aux populations aînées. On fait face à la honte, en fait, de ces personnes-là qui ne veulent pas forcément témoigner tout le temps. On a quand même réussi à avoir de jolis témoignages, notamment lors de notre déplacement au Centre Accueil Héritage. On aura le temps d'en parler un petit peu. Mais voilà, je pensais que cette émission, elle était importante, histoire de faire un petit peu le tour de tout ce qu'on a pu apprendre, de tout ce qui a pu nous choquer, tout ces conseils qu'on a entendus, qu'on essaye peut-être même nous maintenant de mettre en pratique. Je vais faire un petit tour de table. Déjà, je vais commencer avec toi, Anaïs. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, ce projet Nos aînés connectés, justement?
De découvrir de nouvelles fraudes, parce qu'il y avait des fraudes dont je n'étais pas au courant. Aussi de partir à la rencontre des personnes âgées, parce que c'est quand même une communauté qu'on oublie de temps en temps. Et notamment, par exemple, au Centre Accueil Héritage, c'est des personnes âgées qui sont francophones. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer des nouveaux membres de la communauté francophone. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses juste pour faire des recherches, etc., pour tous les épisodes. J'ai trouvé ça très intéressant.
Et justement, si tu disais qu'il y avait des arnaques dont tu ignorais un petit peu l'existence, qui t'ont un petit peu choqué, ce serait laquelle, par exemple, si tu pouvais en citer une?
Par exemple, celle avec Christian Bod, où il a raconté les arnaques de l'autoroute. Ça, c'est quelque chose dont je n'étais pas au courant. Surtout qu'apparemment, ça a commencé à apparaître fin 2023 et ça continue d'augmenter, en fait. Donc ça, pour le coup, je n'étais pas du tout au courant, puisque moi, je ne conduis pas. Donc, je n'ai pas été sur l'autoroute, je n'ai pas reçu de message suspicieux. Ça m'a un peu alarmée, parce que c'est quand même assez choquant, mais voilà.
Oui, je te rejoins sur ça, parce qu'en plus, cette émission avec Christian, je me rappelle qu'il me disait que lui-même, comme toi, ne conduit pas. Et en fait, c'est sa femme qui conduit en général, donc la voiture est au nom de sa femme, tout est au nom de sa femme, mais c'est lui qui reçoit le message. Donc, ouais, je te rejoins, cette arnaque, elle était assez particulière. Je passais à toi, Guillaume, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, justement, cette série d'émissions Nos aînés connectés? Est-ce que ça a mis en lumière des fraudes que tu connaissais peut-être pas?
Ça a mis en lumière des fraudes dont j'avais lu l'existence, mais que je ne connaissais pas. Et c'était intéressant de découvrir les témoignages de gens qui en ont été victimes, parce que l'aspect vécu, l'aspect humain a été très important dans cette émission. Tu as souligné à juste titre dans l'introduction que c'était parfois délicat de parler
d'arnaque,
de fraude.
Ouais.
D'accepter le fait qu'on se soit fait avoir et ensuite d'en parler. On a parfois dû avoir recours à l'anonymat. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses. Il y a eu une émission autour des fraudes liées à l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un thème hyper moderne. Et je ne pensais même pas qu'on allait avoir des témoins de ce type de fraude dont on voulait parler à l'origine dans la création de l'émission, mais ça existe bien, bel et bien déjà au Canada, et des gens ont malheureusement été victimes de ce type de fraude avec des fausses voix créées, etc. Et la technologie avance très vite, donc on a pu être témoin de ce type de fraude. Et puis j'ai moi-même fait l'entrevue de quelqu'un qui avait été victime de fraude site d'immigration.
Ouais, ça c'est très fréquent aussi, puis le Canada étant une terre d'immigration, tout le monde a tendance à postuler pour des visas, des demandes de résidence permanente XY. Et du coup, on ne se rend pas forcément compte qu'on est sur un site falsifié, en fait.
Exact. Et ça, lors de la préparation des émissions, ce n'était pas une idée que j'avais eue en tête. Mais j'ai été effectivement surpris, malheureusement, de découvrir ce type de fraude-là et qui touche effectivement en particulier des aînés. Et puis moi, ce que je retiens, c'est la participation, le dialogue intergénérationnel, même si on a eu des difficultés difficulté à rejoindre parfois des aînés et à les faire parler de leur expérience douloureuse. On a réussi à le faire. On a pu se rendre effectivement au centre accueil Héritage, un de nos partenaires, et on a pu rejoindre une foule d'intervenants. Donc je pense que l'émission en tant que telle est un très beau succès et devrait être une ressource qui reste parce qu'elle elle permettra aussi aux auditeurs du futur de s'y retrouver, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et on a distillé effectivement de nombreux conseils, ceux d'experts en particulier dans cette émission, et je pense qu'ils seront valables longtemps après la fin de l'émission.
Oui, et puis je rappelle aussi aux auditeurs de Choc FM 105.1 que maintenant toutes nos émissions, et pas que la série d'émissions Nos Aînés Connectés, mais tout est retrouvable sur différentes plateformes de streaming, notamment Spotify. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tout réécouter d'un seul bloc parce que vous voulez en apprendre énormément, c'est possible. N'hésitez pas à vous rendre sur Spotify et aussi sur notre site chocfm.ca. Je rebondis toutefois sur un truc que tu disais, cette arnaque sur les intelligences artificielles. Moi, je pense que c'est personnellement celle qui m'a le plus choquée, si bien que j'en ai même créé un code avec mes parents. Parce que les amis, on va pas se cacher, on fait de la radio, on a des voix qui sont publiques, d'autant plus que je viens de le dire, maintenant on est même sur Spotify et toutes les autres plateformes. Du coup, moi j'ai mis en place avec ma famille un code parce que c'est possible que quelqu'un, comme dans le témoignage de Mireille dans cette émission spéciale, vous recevez un appel ou quelqu'un de votre famille reçoit un appel avec... plutôt quelqu'un de votre famille, du coup, avec votre voix au bout du fil. C'est assez flippant. Moi, je trouve que c'est assez, même très, très, très flippant parce que si on ne met pas de code en place, c'est exactement le même timbre de voix. Et sauf si vous passez en appel visio, vous n'aurez pas réellement la réponse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse maintenant que je vous ai dit qu'on a des voix publiques et que c'est peut-être un peu possible?
Moi, ça m'angoisse aussi ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Je digresse un tout petit peu, mais les IA qui maintenant génèrent des vidéos,
oui.
j'ai lu un peu comment ils génèrent ces vidéos. Ils se servent de ce qui est public, en fait. Donc, évidemment, si on a une vidéo, et comme tu dis, nos voix sont complètement publiques maintenant et elles sont partout sur Internet, ça va être la même chose bientôt avec les âges. Donc, sans être alarmiste, effectivement, je trouve ton idée est très bonne. Moi, complètement naïve, j'allais te demander c'était quoi ton code.
Mais s'il te plaît, je ne te donnerai pas.
Non, mais par contre, c'est une excellente pratique que tu as mise en place avec tes parents. Donc, lorsqu'on se rencontre physiquement, sans mouchard électronique, c'est important, je pense, de le faire, d'avoir un mot de passe, quelque chose que l'on mettrait en place. Il y a aussi énormément d'arnaques qu'on a rencontrées par SMS ou par téléphone.
Mais ça, c'est celle qu'on s'attendait.
Oui, mais d'un père à son fils qui va dire j'ai un problème, j'ai perdu mon portefeuille, est-ce que tu peux m'envoyer ?
J'ai un ami qui va venir récupérer de l'argent.
En toute bonne foi, on peut imaginer vouloir le faire lorsqu'on est une personne aînée ou pas d'ailleurs, qui veut aider sa progéniture. Avoir un petit mot de passe comme ça, ça peut permettre d'éviter pas mal de désagréments.
Mais en fait, je reviens sur ce que je dis parce que passer en mode vidéo, et tu le dis bien, c'est fait. Ben, en fait, l'émission que j'ai tournée avec l'expert Eric, effectivement, il disait que lui, il avait été témoin, ou un ami à lui avait été témoin, d'une fausse réunion avec son boss. Donc, en gros, c'est comme si Guillaume nous réunissait toutes et qu'on est en vidéo. Et en fait, au lieu que ce soit Guillaume, c'est juste une intelligence artificielle qui prend les traits de Guillaume. Et en fait, c'était une fausse réunion avec une fausse personne. Et en fait, voilà, même si on switch, comme je disais, on passe de l'appel juste vocal à l'appel en vidéo, même comme ça, on n'est pas forcément sûr. Donc voilà, et mon code, c'est pas un code genre avec des chiffres et tout que j'ai mis en place avec ma famille, mais c'est juste, je peux vous le dire parce que tout le monde peut appliquer cette technique, c'est juste de poser des questions que seuls les membres de votre famille peuvent savoir. Par exemple, sur le buffet de la salle à manger, à côté de la petite, du porte-serviette, qu'est-ce qu'il y a ? Ou dans ma chambre, quel est le cadre, machin. Genre, clairement, il n'y a que les gens de ma famille ou les gens qui sont passés chez moi qui vont s'en rappeler et qui vont le savoir. Donc voilà, pas forcément des codes que, si on réfléchit un peu, on peut se dire « Ah, attends, c'est quoi son film préféré ? Peut-être c'est ça le code. » Non, plutôt des trucs qui, voilà, appartiennent à votre intérieur, à vous, appartiennent à vos passions, à vous, un truc que vous avez fait quand vous étiez petite. Bref, un souvenir commun à votre famille, et je pense que c'est la meilleure des choses en fait à mettre en place, parce que les intelligences artificielles, vous savez, moi c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas trop ça, mais je pense que ça peut être utile dans certains cas, mais voilà, faut quand même s'en protéger parce que ça peut vite tomber dans des dérives. Marine, je passe à toi. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté cette série Nos aînés connectés? On a été ensemble d'ailleurs au centre accueil héritage. Bon, toi, tu les connais bien parce que tu y vas souvent, mais qu'est-ce que ça t'a appris de manière générale cette émission?
Qu'on est tous un peu victimes, je pense. On a tous plus ou moins ouvert un mail par curiosité et que c'est une situation soit d'isolement, soit de curiosité, soit de sensibilité qui fait qu'on va cliquer ou pas sur un lien ou qu'on va répondre ou pas à un appel à don, par exemple. Mais j'ai trouvé qu'il leur en fallait pas plus d'une erreur pour apprendre et se protéger. Je pense que c'est pareil pour nous. On a grandi dans la technologie, donc on nous a appris ces erreurs-là et ça peut aller vite d'éduquer un peu tout le monde à ça, mais ça manque encore, je trouve. Je pense que j'ai compris ça. J'ai compris qu'en fait, il fallait un peu plus d'éducation à la protection, à la cyberprotection. Je pense que c'est ça qui m'a marquée. Après, oui, que je pense qu'on est personne n'est à l'abri de tomber dans le panneau d'un appel au don qui a l'air crédible, même si on est au courant.
Ouais, je pense qu'aussi, il y a ce côté, plus on se sent concerné, par exemple, des fois on reçoit des emails, votre banque TD, si vous n'êtes pas en train de travailler avec TD, bah vous allez dire, oh, encore une arnaque. Mais si vous êtes dans le cas du client qui a peut-être un problème actuellement, justement, avec sa banque, et que vous recevez ce genre de message, bah, ça va vous toucher un peu plus. Pareil avec Netflix, et admettons, vous avez un enfant qui a peut-être bidouillé la télécommande et que vous pensez qu'il y a eu un souci, et que vous recevez un message, votre application Netflix peut être bloquée, merci de cliquer rapidement sur ce lien. Moi, ce que j'ai compris surtout, c'est faire attention à cette situation d'urgence. Parce qu'on vous envoie un email en disant « cliquez vite, nanana », mais c'est toi qui m'envoies cet email, moi je n'étais pas dans une situation d'urgence, donc pourquoi d'un coup je dois subir cette situation d'urgence à laquelle je n'étais même pas au courant? Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de... Et je me rappelle le témoignage d'expert de Bénédicte Choplin qui disait « respirer, prendre le temps de faire autre chose, se mettre un coup d'eau sur le visage parce qu'on a un coup de stress, ralentir en fait, se remettre en mode comme avant qu'on reçoive cet appel, ce texto, cet email et se dire « Ok, est-ce que ça a l'air vrai ?» En parler à quelqu'un d'autre pour avoir un second avis. Et là, se lancer oui ou non dans l'aventure de je clique ou je clique pas. Parce que ça peut être éventuellement un vrai email. Le problème aussi, je pense qu'on a pu rencontrer avec les personnes âgées, c'est qu'on leur parle de cybercriminalité, mais comment on les aborde? Souvent par email. Donc du coup, bah, des fois, c'est un peu serpent qui se mord la queue parce qu'on leur parle de faire attention de ne pas cliquer sur tel ou tel email. Mais nous, on les aborde comme ça aussi. Donc il peut aussi y avoir ce truc de paranoïa. Moi, personnellement, à force, j'étais devenue très parano en faisant les montages, en écoutant les histoires de tout le monde. Bah parce qu'on peut se dire qu'on est à l'abri de rien, au final.
Il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de mécaniques qu'on a pu faire ressortir et qui sont un peu toujours les mêmes dans les différents types de fraudes. Tu as bien souligné celle de l'urgence, de vous faire cliquer sur un lien, de vous faire passer à l'action sans trop réfléchir, parce que si vous réfléchissez, vous allez immédiatement réaliser que c'est une fraude dont il s'agit. Mais il y a d'autres choses. Parfois, on peut vous faire miroiter, effectivement, d'avoir gagné un voyage, un concours, quelque chose de magnifique, et plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, d'autres fois, Marine, tu l'as souligné, les fraudes aux œuvres de bienfaisance, on a l'impression qu'on va faire une bonne action, on nous appelle à l'action, encore une fois, mais en nous prenant par les sentiments. Donc là aussi, il y a beaucoup de jeux sur l'affect, sur les sentiments, sur... on ne parle pas à votre cerveau, mais davantage à votre cœur. Et c'est attention, c'est là où il faut ne pas réagir trop vite, effectivement. Donc, c'est des mécaniques qui sont semblables dans les différents cas de figure qu'on a pu observer, que ce soit les arnaques sur le téléphone, sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, avec différents types de modes opératoires. Mais c'est presque toujours, finalement, ce qui arrive.
Oui, et puis je rappelle aussi aux auditeurs de Choc FM 105.1 que si d'un coup, d'un seul, vous recevez un email qui vous annonce que vous avez gagné une loterie dans un pays où vous n'avez jamais mis les pieds, ayez peut-être la puce à l'oreille. On gagne rarement des loteries auxquelles on n'a jamais participé. Donc voilà, toujours remettre, comme je dis, le truc dans son élément, dans le contexte actuel. Est-ce que cette loterie, ça me dit quelque chose? Est-ce que j'ai pu participer ou quelqu'un m'aurait fait participer? Si on se sent complètement extérieur à tout ça, voilà, n'hésitez pas à ne pas cliquer tout de suite, à prendre l'avis d'autrui autour, des amis et tout. Puis peut-être que c'est vrai, peut-être que vous êtes le nouveau chanceux et millionnaire. Mais peut-être pas, donc dans le doute, on évite de cliquer.
On a eu des témoignages aussi, il me semble, de situations qui étaient un peu particulières, où il y a eu un fâcheux concours de circonstances,
ouais,
où malheureusement, effectivement, deux informations, pas contradictoires, mais plutôt qui se recoupaient, pouvaient laisser croire à une personne que... elle était dans une situation d'urgence parce que dans sa vie personnelle, il y avait, comme tu disais, une banque qui posait problème, où il y avait une situation bien particulière. Et c'est là où il faut toujours avoir le réflexe de retourner sur le site racine, sur le site mère de votre institution financière pour cet exemple particulier, et ne jamais cliquer sur un lien qu'on vous envoie. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a répété je ne sais combien de fois, mais je pense que c'est vraiment très important de le redire encore une fois dans cette émission finale. Se méfier toujours des liens qu'on vous envoie et vérifier qui est la source, et si possible retourner sur le site officiel de l'institution ou essayer de contacter par un autre moyen sans répondre au courriel. Ne pas ouvrir les pièces jointes aussi, qui peuvent être des systèmes de chevaux de Troie qui vont prendre contrôle de votre ordinateur, des choses comme ça.
Oui, et puis aussi à penser que dans les emails, même si on ne vous appelle pas à l'action de cliquer sur un lien qu'on vous dit, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle au numéro machin, n'hésitez pas à reprendre le numéro, à aller sur Google, à faire votre propre recherche, parce que un numéro de téléphone donné dans un email non sollicité, ça peut quand même porter... quelques doutes, donc n'hésitez pas, voilà, à faire vos propres recherches. Et si quelqu'un vous appelle, un conseiller bancaire XY qui vous appelle en disant « Oui, voilà, il y a des problèmes sur votre ligne », n'hésitez pas à raccrocher, à lui dire « Écoutez, je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre, je vais raccrocher, puis je vais vous rappeler. » Puis, de toute façon, si je suis bien dans les petits papiers de la banque, à un moment donné, ce souci va ressortir. Donc, que je parle à Pierre, à Paul ou à Jacques, ce sera pareil. Et du coup, de rappeler vous-même et de contacter votre banque pour voir si effectivement il y a un problème. Parce que voilà, toujours faire attention quand c'est non sollicité, ça sent un peu le roussi quand même.
Moi aussi, ce que je fais des fois, c'est quand j'ai des appels de numéros que je ne connais pas, en fait, je ne vais pas les crocher, donc ça sera un appel manqué sur mon téléphone. Je sélectionne le numéro de téléphone et je vais le mettre dans Internet. Et généralement, ça va dire scam, ça va dire que c'est une fraude, ça va dire... ça, il y a des gens en fait sur des blogs qui témoignent, qui disent « Ah, j'ai été victime de fraude », ils se disent être une banque ou un groupe, etc. Donc faites attention. Et ça peut être une technique, en tout cas moi je l'utilise souvent parce que j'ai souvent des appels de personnalité, je ne sais pas, donc du coup c'est vachement pratique.
Puis surtout qu'on est dans la période des taxes, et pendant cette période des taxes, c'est un petit peu le festival de tout et n'importe quoi, des messages, des textos, des emails, on a tous des retours de taxes sans avoir même encore rentré nos taxes, donc c'est génial. Mais ouais, faites bien attention, surtout voilà, il y a des périodes de l'année où c'est un petit peu, il y a plus de pics, les périodes des forts moments de shopping, par exemple Black Friday, les périodes des fêtes, ça c'est des moments où les gens vont faire pas mal d'achats, Amazon, tous les trucs un peu sur Internet, donc forcément il y a des pics, et puis après voilà, la saison des taxes, puis bon après il y a des emails comme Netflix qui peuvent arriver un peu n'importe quand. Mais voilà, surtout, gardez bien en tête les emails non sollicités. On se pose toujours un peu la question. Je voudrais qu'on reparle un petit peu aussi de notre passage au centre accueil héritage, les filles. Qu'est-ce que vous en retenez de ce passage ? Est-ce que vous retenez des personnes paniquées à l'idée de surfer sur Internet, ou alors confiantes parce que de plus en plus éduquées ? Qu'est-ce que ça vous a laissé comme souvenir, comme image, ce centre ?
Alors moi, j'ai été surprise de voir que beaucoup de personnes âgées étaient réticentes à nous partager en fait ce qui leur est arrivé, parce que en fait gênées, parce que elles avaient honte de partager leur expérience. Moi, je me suis retrouvée, j'ai essayé d'interviewer des différentes personnes, et à chaque fois c'était non. Je me suis pris pas mal de non, et même des fois quand ils ont témoigné, c'était très très flou. Ils n'étaient pas capables d'expliquer la situation dans laquelle ils avaient été, ou un proche à eux avait vécu. Donc c'était une expérience complexe, mais très enrichissante et très intéressante.
Je crois que vous vous êtes rendu compte à quel point effectivement ce type d'émission était indispensable, dans la mesure où la littératie est absente pour cette frange de la population aînée. qui n'a pas grandi effectivement
ce que j'allais dire,
avec,
ouais.
avec les technologies et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où ils sont capables d'utiliser un téléphone intelligent, un ordinateur, etc., mais ne connaissent pas très bien les manières de se protéger et ne sont pas assez au courant des différents types d'arnaques les plus, de plus en plus sophistiquées qui existent malheureusement et donc ont besoin de beaucoup plus d'éducation sur le sujet à leur portée.
Puis il y a aussi un truc qui remonte aussi avec toutes ces histoires d'arnaques, c'est qu'avant, dans les emails en français, le fait d'être au Canada, on recevait beaucoup de trucs en anglais. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que, comme moi, vous utilisez la majeure partie du temps, quand vous le pouvez, les services francophones, pour les faire vivre tout simplement, mais aussi parce que c'est plus simple pour certaines choses. Et du coup, bah, quand tu reçois des emails que d'habitude tu es censé recevoir en français, là si c'est en anglais, tu as la puce à l'oreille de dire « Ok, ma banque, je travaille avec eux en français, c'est pas logique qu'ils m'envoient une communication en anglais. » Sauf que maintenant, avec les intelligences artificielles, la technologie qui a évolué, tout ça, on reçoit quand même des choses en français et sans forcément plein de fautes de frappe et sans forcément à la place d'un E accent aigu, un arrobase et des signes un peu bizarres et tout. Donc, on a moins de signaux comme on aurait pu l'avoir il y a quelques, enfin, on aurait pu avoir il y a quelques années. Donc, il y a eu pas mal de choses aussi comme ça qui ressortaient, moi, je trouve, quand on a vu les aînés, parce que si, quand bien même ils n'ont pas grandi avec les technologies comme, par exemple, notre génération à nous, ils ont quand même été amenés à travailler avec des ordinateurs pendant leur carrière et tout ça. Donc, ils ont quand même, on va dire, le béaba des choses. Mais malheureusement, les pirates vont beaucoup plus vite que des personnes âgées qui essayent de comprendre les pièges à éviter. Moi, je pense que c'est un peu ça que j'ai retenu. Toi, Marine, tu dirais quoi ?
Je dirais que c'était assez binaire. Soit il y avait un rejet de la technologie ou un rejet, je pense à Jacqueline, pour qui c'était niette. Non, si quelqu'un m'appelle qui ne me connaît pas ou que je ne connais pas, je l'envoie paître et je vous passe les mots qu'elle utilisait. Mais, donc, c'était soit un comportement comme ça ou alors de toute façon, pas de téléphone, donc pas de problème à ce niveau-là. Et soit, bah, oui, j'essaye et oui, je me suis fait avoir. Donc, c'était un peu les témoignages que j'ai reçus. Et après, oui, c'était difficile, je suis d'accord avec toi, Anaïs, d'avoir des témoignages de tout le monde. Mais il y en a qui avaient conscience qu'effectivement, on était là pour recueillir ces informations et les partager au plus grand nombre. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'ils étaient conscients que ça pouvait mettre une pierre à l'édifice de l'information. Donc, je me souviens de quelques personnes qui en avaient vécu plusieurs aussi. Et donc là, ça commençait à devenir inquiétant aussi de se dire, mince, pourtant, ils savent utiliser les outils technologiques, mais il y a vraiment derrière chaque porte une possibilité de se faire avoir.
Ben, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça faisait partie de l'échange que j'avais eu avec Bénédicte Chopelin, l'experte, qui me disait qu'il y a certaines personnes âgées qui vont être très dans le partage pour éviter que d'autres personnes soient arnaquées. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir honte, non seulement d'être tombées dans le panneau, parce que, bon, bah, c'est toujours un peu délicat de dire, bah voilà, je suis un peu bêta, je suis tombée dans le panneau, je sais que j'aurais pas dû, blablabla. Mais il y en a d'autres, c'est pas pour cette raison de honte, on va dire, classique. C'est plutôt parce que bah, c'est des personnes vieillissantes et qu'elles ont peur qu'on pense qu'elles n'aient plus toute leur tête. Ouais. Et que du coup, bah, elles sont peut-être pas toute leur tête pour gérer leurs finances. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait mettre en place un tuteur. Et donc, en fait, des fois, cette volonté de garder pour soi parce qu'on a peur de divulguer un peu son histoire, bah, c'est pas juste parce que j'ai honte de m'être fait arnaquer parce que je pensais que ce jeune homme était amoureux de moi ou que ce sac que j'ai commandé, qui est hors de prix d'habitude, que j'ai eu en super discount et tout, là, je vais l'avoir pour pas cher et tout, je l'ai jamais reçu. Non, on est loin de ces histoires-là. Des fois, c'est juste parce que elles ont honte, entre guillemets, de, bah, peut-être, de montrer que sur certaines parties de leurs finances, elles sont plus autonomes à 100% ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a aussi ce côté, j'ai peur qu'on pense sénile.
Mais on a beaucoup parlé des personnes âgées, aînées, parce que c'était le centre de cette émission, mais en la préparant et en parlant autour de nous de l'émission, on s'est rendu compte à quel point ces thématiques de cybercriminalité, cybersécurité, de fraude financière en ligne touche tout le monde finalement aujourd'hui, et c'est pas parce qu'on est âgé qu'on se fait seulement les personnes âgées se font arnaquer. On a eu des tas de gens qui voulaient témoigner et qui rentraient pas forcément dans la définition des personnes aînées, mais qui ont été victimes effectivement de situations parfois rocambolesques et on en payait les frais longtemps.
Et puis les institutions aussi, en cherchant un peu d'informations sur ce qui pouvait se faire comme type de cybercriminalité, on tombe très rapidement sur ce qui se passe dans les institutions publiques. On a à Toronto longtemps entendu parler ces derniers mois de la cyberattaque de TPL, Toronto Public Library, qui a eu des retentissements pour tous les employés dont les données ont été maintenant volées.
Ça a duré super longtemps, 4 mois, là, ouais. De octobre, je crois, de tête, c'était 23-29 octobre, cette histoire. Les pirates ont fait disparaître des millions de livres des fichiers de la bibliothèque. Il y a pas mal de personnes qui travaillaient pour la bibliothèque qui ont eu leurs informations comme tout ça siphonnées. Enfin, donc du coup, ça remet un petit peu en question plein de choses parce qu'on se dit, quand on va faire sa petite carte de bibliothèque, à aucun moment on se dit, oh, je suis en danger. Quand on va sur un site un peu bizarre pour essayer de trouver les meilleures affaires et qu'on va sur un site, on se dit, bof, ce site, j'ai bof confiance, on prend un petit peu déjà conscience qu'on se met peut-être en danger. Mais quand on est à la bibliothèque, pas forcément. Et Marine, il y a pas mal d'institutions. Est-ce que tu as noté aussi Hamilton, la ville d'Hamilton?
Il y a plusieurs villes. Il y a
au nord de...
Des services. Et puis, il y en avait de différents types. Des fois, c'est des hackers qui vont demander des rançons contre les données personnelles.
C'est ce qui est passé à Hamilton.
Hamilton, Huntsville aussi. Ça, c'était l'année dernière. Il y a la ville de Toronto en 2021 qui a eu certains de ses départements hackés. Le TTC aussi en 2021.
Les hôpitaux aussi à Toronto.
Les hôpitaux... Le zoo, en janvier de cette année aussi, on en a parlé, des données personnelles des employés qui ont été volées. Mais il y a aussi d'autres choses un peu plus, fabriquées maison, mais qui ne sont pas des moindres en termes de finances. C'est une ville au nord de l'Ontario qui devait payer des frais de construction pour un chantier en cours. Il y a eu interception de mail et les fraudeurs ont renvoyé un mail en disant on a changé de compte bancaire, faites le virement à ce compte bancaire. Il y a eu une espèce de petite vérification entre deux... personnes de la ville et le virement a été fait à une entreprise complètement factice mais de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc c'est ça que je dis justement aux personnes âgées, mais en fait c'est pas vous, c'est tout le monde, même des employés dans une ville tout à fait diplômés, alertes, sont capables
surtout,
de virer plusieurs millions de dollars de fonds publics à des fraudeurs et on n'y voit rien parce que la fraude elle est un peu partout.
Et ça c'est le génie du mal, ça c'est incroyable.
Même des gens dans seul métier, on a eu des experts qui ont témoigné et qui ont expliqué que même eux n'étaient pas nécessairement à l'abri, même en connaissant toutes les ficelles, parce qu'il y a sans cesse des nouvelles technologies qui se mettent en place, ou sans cesse des nouveaux moyens de procéder. Et tu parlais des hôpitaux, là ça touche Michael Garron à Toronto.
SickKids aussi, ouais.
On a entendu beaucoup dans la presse, effectivement, ce type de fraude-là. Si ces grandes institutions publiques se font toucher alors qu'il existe des services et des professionnels dédiés à protéger justement ces données-là, on comprend bien qu'un individu âgé qui puisait, connaissant mal la technologie, soit particulièrement vulnérable.
Ouais, j'avais aussi lu que justement les institutions publiques, elles sont assez vulnérables parce que même si elles ont des départements dédiés à la technologie, c'est pas les choses les plus solides en termes de sécurité. Mais par contre, là, en mars 2024, l'organisme de surveillance financière du Canada qui s'appelle FinTrack a été hacké. Alors pas entièrement, ils sont pas allés chercher des données vraiment confidentielles, mais donc encore une fois, les institutions publiques, ok, elles sont peut-être plus fragiles, mais même les institutions dédiées à la surveillance de notre cybersécurité s'est fait hacker. Donc je pense qu'on peut dédramatiser et un peu rassurer les personnes qui ont peur de parler ou de raconter leur histoire. Parce que tu demandais ce qu'on avait pas mal compris en allant au centre accueil héritage, en rencontrant les personnes aînées. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'en parle pas par honte, mais derrière, du coup, on ne porte pas plainte et ça, c'est un vrai problème parce qu'ils se disent tant pis, j'ai perdu 100, 200, 5000, 7000 dollars et ils n'en parlent pas. Et ça, je pense que c'est la conséquence la plus grave de ne pas en parler, quoi. C'est de
plus
perdre de l'argent.
$800 000 a été perdu par une veuve de l'Alberta dans une escroquerie amoureuse en ligne en 2022. Là, ça peut aller très très loin.
Oui, puis ça peut aller entre eux, et je me rappelle très bien de la voix de Bénédicte qui résonne encore dans ma tête, qui disait, ça peut aller entre quelqu'un qui a un appartement et qui le lendemain l'a plus.
Oui.
Parce que en fait, on se rend pas compte, des fois ça va être un petit $100 par-ci, un petit $200 par-là, et puis en fait l'engrenage, il se met en place, et puis au final on se rend pas compte que peut-être Ça va prendre un an, ça peut prendre deux ans, surtout toutes ces arnaques un petit peu liées au sentiment amoureux. La personne, je pense que c'est une des arnaques qui prend le plus de temps, en fait, parce qu'il faut ferrer le poisson, entre guillemets. Donc, c'est horrible, mais c'est ça.
C'est ça, la confiance que l'on crée. Finalement, on base tout dessus et le temps investi par le fraudeur peut être très rentable à la fin.
Oui, puis il y a aussi cette histoire de pandémie, en fait, parce que la pandémie a fait que de plus en plus de personnes qui n'étaient pas forcément adeptes des réseaux ou d'Internet de manière générale se sont mises de plus en plus sur Internet parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pendant cette période de pandémie. Et c'est à ce moment-là où on peut mettre en place des arnaques sentimentales ou quoi que ce soit, parce que du coup, de toute façon, on est sur une période sans visibilité. Donc la personne, elle a plus ou moins un long tunnel pour arnaquer la pauvre petite dame ou le pauvre petit monsieur de l'autre côté de l'écran et prendre pas mal de leurs informations ou leur soutirer des sous. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que quand j'ai discuté avec Eric, l'expert, je lui disais, mais par exemple, voilà, quand on fait une cyberattaque sur une institution ou quoi que ce soit, on se dit, il va y avoir une demande de rançon, on va récupérer des gros sous, et il y a plein de choses à récupérer. Mais si on arnaque une personne lambda et qu'on lui siphonne ses informations, concrètement, ça ne vaut pas grand-chose. Et il m'a dit, c'est là en fait où tu te trompes, c'est parce que chacun a beaucoup d'informations avec lesquelles, certes comme ça, les informations ne valent pas grand-chose, mais en fait sur le marché du darknet, eh ben, ça va pouvoir te permettre de créer des cartes, de créer des choses avec ton identité, créer même peut-être des fausses vidéos avec ta tête ou quoi que ce soit. Donc au final, tout ça, après, ça se monnaie. Et en fait, même une pauvre petite personne âgée du fin fond de l'Alberta, pour prendre ton exemple, Guillaume, eh ben en fait, ces données, ça vaut des centaines de millions de dollars, en fait, une fois que bout à bout, les arnaqueurs ont fait un petit peu tout ce qu'ils avaient besoin d'en faire avec.
C'est la fameuse data et qu'exploitent aussi de manière légale un certain nombre d'entreprises, parfois à notre insu.
Parfois, on accepte, hein, parce que oui. Qui d'entre nous a lu toutes les petites
les
lignes.
Voilà. Ce qui est certain, c'est comme tu le disais, ça peut mener à des situations rocambolesques. Je crois qu'on a parlé à quelqu'un qui s'était fait voler son identité d'une manière aussi un petit peu compliquée, mais qui payait toujours aujourd'hui des factures à son nom, mais c'était quelqu'un d'autre qui commettait les infractions, etc. Et donc, c'est très difficile parfois ensuite d'avoir gain de cause. Ça peut prendre des années.
Mais c'est difficile de prouver que, par exemple, Guillaume Laurin...
Ce n'est pas toi.
N'est pas Guillaume Laurin. Ouais. Comment on fait pour expliquer ça, en fait?
C'est là aussi où, encore une fois, je trouve qu'en parler, mais dire il faut aller voir les institutions, il faut aller voir les banques, les centres antifraude, ça marche, parce qu'effectivement, j'ai une amie qui s'est fait voler sa carte bancaire. C'est pas une cyberattaque, mais derrière, voilà, le vol de data fait que elle a eu des répercussions en termes de et surtout ici au Canada et en Amérique du Nord, ça a tapé dans son credit score. Et quand t'essayes de construire quelque chose, on va dire à long terme au Canada, si ton credit score est atteint, t'es vraiment foutu.
Et donc mais ça par prend contre, longtemps à se remettre.
Ça prend longtemps, tu sais pas jusque quand, mais il y a les banques, elles sont prêtes à enquêter parce qu'elles ont pas non plus envie de payer des frais qui leur correspondent pas. Donc elle s'est fait aider, elle a récupéré son credit score. Normalement, tout est safe et c'est géré par les banques et les centres antifraude. Donc, il y a vraiment une armada de gens qui sont prêts à ce que ça n'aille pas plus loin que possible. Donc, ne pas hésiter à en parler autour de soi.
Justement, on va essayer de remettre un petit peu la liste à jour de tout ce qu'il faut faire, à qui il faut reporter. Donc déjà, moi, je pense au centre antifraude du Canada. Parce que, quand bien même, ils ne vont peut-être pas vous aider à récupérer vos sous s'il y a des sous qui ont été volés. Eux, leur travail, c'est aussi de lister toutes les arnaques qui existent et justement, après, de faire des formations, que ce soit auprès des jeunes, des moins jeunes, des personnes un peu seniors, de laisser des petites brochures dans les résidences, les trucs comme ça. Centre antifraude, très important. Crédit Score, on va parler de TransUnion, on va parler d'Equifax. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes sorti ou vous avez pris le train et puis vous avez oublié votre sac, en soi, vous n'avez pas été victime d'arnaque, mais pareil, vous avez laissé des informations sur vous et vous ne savez pas si ça ne peut pas être récupéré et être récupéré de façon mal intentionnée. Donc, n'oubliez pas d'essayer de contacter TransUnion et Equifax. Ils peuvent toujours faire une recherche pour voir s'il n'y a pas une hypothèque qui a été ouverte en votre nom, une carte de crédit dont vous ne connaissez pas l'existence. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Je pense aussi à la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. N'hésitez pas à porter plainte. De le faire aussi à votre bureau de police local, parce qu'il faut bien commencer par de façon plus locale. Mais ne pas hésiter à prendre des mesures un peu plus importantes parce qu'on va se dire, voilà, oh, c'était 200$, oh, c'était 300$. Mais en fait, vous, peut-être 200$, mais peut-être que la personne qui a rien dit, elle, ça fait 4000$ et que bah, là, c'est peut-être compliqué pour elle de continuer de payer son loyer ou de continuer de mettre à manger dans le frigo. Donc, n'hésitez pas à reporter tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres institutions auxquelles vous pensez qu'il faut absolument rapporter?
Non, mais juste, effectivement, la police de Toronto a un gros service de cybercriminalité dont ils augmentent l'effectif en ce moment parce que ça devient une priorité en termes de crime. Et moi, je pensais aussi communiquer aux médias. N'hésitez pas à envoyer vos histoires sous couvert d'anonymat ou pas pour raconter ce qui vous est arrivé parce que ben, c'est comme ça qu'on alerte aussi les gens. C'est comme ça que ça devient des cas quand c'est publié dans des médias qui s'emparent du problème, que des enquêtes sont menées. Donc, fantasmons des grandes enquêtes à travers les médias. Oui, ça marche en plus.
Surtout sur des nouveaux types de fraudes qui sont encore peu connus.
Comme celle des autoroutes un petit peu qu'on a discuté.
C'est assez disséquer ces mécaniques-là et comprendre comment ça marche, comment elles ont été inventées, par qui et essayer de s'en prévenir, c'est important. Tu as parlé de la Gendarmerie royale du Canada. Je voulais juste ajouter que le site est très bien fait. Il y a aussi une partie de prévention. Donc, vous pouvez retrouver beaucoup de matériel à lire pour peut-être en savoir davantage si vous voulez aller plus loin. Et puis, il y a un centre canadien pour la cybersécurité qui publie aussi des données intéressantes et des évaluations des menaces chaque année. Donc, vous pouvez aussi vous référer à ça. C'est mis à jour annuellement et ça permet effectivement de se rendre compte que les fraudes évoluent avec la technologie très vite.
La Farfo aussi, elle publie pas mal de choses. Déjà, c'est comme ça, par exemple, on avait vu un des témoignages d'arnaque sur Facebook qui avait été gentiment lu par Anaïs.
Oui, parce qu'ils nous avaient donné leur accord, justement, là, on avait demandé, ouais, parce qu'on trouvait cette histoire un peu folle. Et puis, on n'avait pas eu l'exemple réel de fraude sur Facebook, alors qu'on sait que c'est un peu monnaie courante,
d'autant plus. Il était bien détaillé. Enfin, ouais. On sentait que ça pouvait vraiment arriver à n'importe qui, quoi. Et, ouais. et sur le site de la Farfo, ils font souvent des webinaires de sensibilisation, et ces webinaires sont accessibles.
La Fédération des aînés retraités de l'Ontario.
Merci.
C'est bien ça, la Farfo.
Ouais, et puis aussi, ne pas hésiter à discuter avec votre banque aussi, des fois, de voir s'il est possible de mettre des vérifications à double facteur. Est-ce qu'il n'y a pas eu des emails ou des choses bizarres qui sont arrivées en leur nom, qui ne sont peut-être pas au courant, forcément, quand c'est en ton nom, c'est que ce n'est pas toi, tu n'es pas au courant. Donc voilà, ne pas hésiter à discuter avec sa banque. Et puis, si on a déjà été victime d'arnaque, peut-être de mettre en place avec sa banque, comme on peut le faire avec ses proches, un code ou un petit truc qui fasse que si on reçoit un appel de sa banque, on est persuadé d'avoir réellement son conseiller bancaire et pas un autre pirate qui essaye de nous arnaquer. Avant qu'on se quitte, les amis, est-ce que vous auriez, on va dire, un top 3 conseils à donner chacun de vos pratiques peut-être personnelles que vous mettiez déjà en place peut-être avant le tournage de l'émission et peut-être celles que vous avez apprises? Bref, Anaïs, si tu me donnais ton top 3, ce serait quoi?
Ne cliquez pas sur les liens. Vérifiez les numéros de téléphone. Donc, comme ce que je vous ai dit, la manière dont je le fais, donc je vérifie toujours les numéros de téléphone qui ne sont pas entrés dans mon téléphone. Donc faire ça, et lorsque vous recevez un message qui paraît bizarre, avant d'y répondre, prenez votre temps.
Ok, Guillaume, toi ton top 3 ce serait quoi?
Pour pas répéter ce que disait Anaïs, je vais dire, dotez-vous d'un bon logiciel antivirus, ça paraît simple.
Même sur votre téléphone.
Même sur votre téléphone, voilà, j'allais préciser ça parce qu'on n'y pense pas assez, mais le téléphone est hyper vulnérable et très utilisé pour surfer.
Et puis on a toutes nos photos personnelles en plus dessus.
Votre banque, toutes les applications qui peuvent être sensibles, donc c'est important de le protéger, de le mettre à jour. Dotez-vous de mots de passe solides et changez-les fréquemment. Là, vous pouvez avoir des logiciels de gestionnaire de mots de passe aujourd'hui pour éviter de trop vous casser la tête, mais c'est vraiment hyper important d'avoir des mots de passe variés et de les changer fréquemment, surtout si vous avez si vous pensez avoir été éventuellement observé ou menacé. Et puis plus généralement, je vais dire la prudence est de mise, finalement, aujourd'hui. On n'est jamais excessivement prudent. Donc, en cas de doute, voilà, ne cliquez pas sur un lien. Ne répondez pas trop vite aux appels de gains mirobolants, essayer de réfléchir froidement et de ne pas succomber à l'impulsion.
Et toi, Marine ?
Je ne savais pas pour les logiciels antivirus de téléphone, là, ça me fait stresser maintenant.
Ça, il y a les VPN aussi, des fois, qui peuvent...
Alors ouais, moi, j'utilise beaucoup le VPN. Ce qui fait et ça et la navigation privée quand je vais sur des sites dont je suis pas sûre ou j'ai pas forcément envie qu'ils me traquent, voilà, je refuse toujours les cookies, c'est-à-dire que je prends les 10 minutes nécessaires pour décocher tous les cookies quand tu vas sur un site, parce que je sais pas quelles sont les conséquences vraiment, mais tout ce que je sais c'est que ça traque mon activité et j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc navigation privée, VPN, on dirait une fille flippée, je ne suis que journaliste radio, mais... j'aime bien aussi, c'est un truc qu'on fait par réflexe, je pense, parce qu'on est né dedans, mais vérifier les adresses email quand on reçoit des mails, juste en passant la souris, comme le dit très bien Eric, sur... Même Bénédicte d'ailleurs, sur l'email, le destinateur, enfin la personne qui nous envoie l'email, voir à quoi ressemble l'email qu'on vous envoie. Et souvent, quand c'est des arnaques, c'est flagrant, quoi. C'est mal écrit, c'est mal...
Ouais, parce que pour reprendre l'exemple d'une banque, par exemple, on peut très bien avoir affiché TD Bank, y compris dans le nom, et si tu mets ta souris au-dessus du nom, tu te rends compte que ça va être une adresse bizarre avec
plein de chiffres, des lettres.
Et un @hotmail.com ou quelque chose comme ça qui ne peut pas exister pour une banque.
Et puis, mon troisième geste de sécurité, je suis un peu à court, parce que je pense qu'on a des... c'est un peu ce qu'on a déjà dit, quoi. J'ai un peu des réflexes automatiques, mais on dit changer les mots de passe, mais personnellement, je le fais jamais, quoi.
Moi non plus, j'avoue.
On peut dire qu'on a des conseils, mais on
les fait. Tous les mots de passe après l'émission. Et toi, Nathalie, est-ce que tu as des idées encore
ouais,
en plus de ce qu'on a dit ?
J'utilise un iPhone Apple, donc je sais pas si sur les autres marques c'est pareil, mais il y a souvent des applications que tu peux utiliser via ton visage. Et en fait, moi, j'ai jamais été très fan de ce truc-là. Je le fais pour certains sites de vente en ligne parce que, bon, flemme, ça me dérange pas trop. Mais par exemple, mon application bancaire, je ne l'ouvre jamais via mon visage. Et encore plus maintenant que j'ai appris qu'on pouvait faire via l'intelligence artificielle de fausses vidéos avec ton visage ou quoi que ce soit. Peut-être éviter de mettre tout via le visage Face ID, pour reprendre le terme de Apple, donc vérification via votre visage. Peut-être faites-le sur certains trucs qui vous dérangent pas trop, où il n'y a pas trop de data qui peut être volée, entre guillemets. Mais voilà, peut-être votre application bancaire, ne le faites pas. Votre connexion pour CRA, pour les impôts, ne le faites pas. Ça, je trouve ça pas top. Marine, ouais.
Oui, ça me fait penser à aussi ne pas se connecter au Wi-Fi ambulant. Moi, je sais que au Canada, j'avais que ça. Et j'avais que ça même pour genre lancer mon compte bancaire. Il fallait que j'aille sur le Wi-Fi de Tim Hortons ou des choses comme ça. Et ça, c'est le pire truc pour se faire voler ses données. Ouais. Se brancher...
Les aéroports.
Se brancher en USB sur des... C'est de moins en moins courant, mais ça a eu lieu à des moments. Donc, les Wi-Fi pas sécurisés, allez-y, peut-être surfer, mais même n'ouvrez pas d'autres applis bancaires ou avec des données personnelles, effectivement.
Moi, il y avait aussi un truc, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais faites vos recherches personnelles. Si on vous dit d'appeler tel numéro, prenez ce numéro, regardez sur Internet ce qui se dit. Si c'est un numéro qui a l'air vrai, bon, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à, par exemple, je ne sais pas, vous êtes chez Banque de Montréal, BMO, allez sur Google, tapez Banque de Montréal, récupérez le numéro, appelez-les directement, parce que c'est trop facile d'envoyer un email en disant « Bon, mon email, il va passer comme une lettre à la poste, puisque je ne fais pas d'appel à l'action, donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas de piège jointe, la personne va tomber dans mon piège. » Si on vous envoie un email que vous ne deviez pas recevoir et qu'on vous dit d'appeler tel numéro, faites votre recherche et composez le numéro sans copier-coller ce truc-là, on ne sait jamais. Et puis, parlez-en autour de vous. Il n'y a pas de conseil magique. Moi, je pense que vraiment d'en parler, de prendre ces quelques minutes de « je respire » parce que ça se trouve, on m'annonce ou une mauvaise nouvelle, je dois 10 000 $, ou une très bonne nouvelle, on me doit 10 000 $ parce que je suis la gagnante d'une loterie, j'ai gagné une croisière. Bref, je ne participe jamais à aucun concours, donc moi, je sais que c'est toujours une arnaque. Mais voilà, quand il y a des gens qui participent à pas mal de concours ou quoi que ce soit, pour éviter de tomber dans le panneau, essayez déjà de vous rappeler si vous avez effectivement participé à ce concours. Si c'est pas le cas, renseignez-vous. Peut-être qu'il y a des trucs magiques qui peuvent arriver, des miracles, ça arrive, mais c'est rare. Donc voilà, comme on dit toujours, si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est pas très vrai. Donc voilà.
Pour terminer sur les conseils pratiques que je retiens et qui sont aujourd'hui plus importants que jamais, effectivement, pour se protéger, on a parlé des mots de passe, mais je voulais juste ajouter ce qui enquiquine un petit peu tout le monde, mais qu'on devrait tous faire, c'est l'authentification multifacteur. Si ouais. on vous propose de le faire, cochez cette possibilité et essayez de vous faire authentifier par à la fois un courriel, un mot de passe, un texto ou un appel téléphonique ou quelque chose comme ça qui permet de croiser et de vérifier que c'est bien de vous qu'il s'agit. Surtout si on parle de données très sensibles comme des données financières. Aujourd'hui, c'est même indispensable pour certaines institutions, mais pas encore toutes. Alors si on vous en donne le choix, choisissez l'authentification multifacteur. Vous allez perdre un tout petit peu plus de temps, mais vous pourrez probablement dormir davantage sur vos deux oreilles.
Je pense aussi à un petit truc avant qu'on clôture cette émission. C'était un conseil que Caroline Isotier donnait. C'était de ne pas tout afficher sur les réseaux sociaux non plus. Alors, bon, nous, on est un média, donc forcément, on partage pas mal de choses et tout. Mais dans nos vies privées, de ne pas afficher forcément la photo de votre neveu qui est mineur. Pas mal de choses comme ça parce qu'on ne sait jamais qui va récupérer ces informations et ce qu'ils vont en faire. Voilà, je ne veux pas alerter les parents qui ont mis pas mal de photos de leurs enfants ou les populations seniors qui mettent des photos de leurs petits-enfants parce qu'ils sont très, très fiers. C'est cool et on apprécie toujours de voir l'évolution de vos chers et tendres. Mais n'oubliez pas que voilà, il y a aussi des personnes très mal intentionnées oui. qui peuvent se faire passer pour des gens et puis récupérer des photos pour en faire de la pédopornographie. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Ça existe, donc voilà, n'hésitez pas à masquer les photos de vos enfants, les flouter, mettre des filtres dessus. Vous pouvez mettre la photo et une fraise dessus, ça fera l'affaire. Les personnes qui vous connaissent vraiment savent à quoi s'attendre derrière ce petit emoji, derrière leur visage. Et la terre entière n'a pas besoin de connaître le visage de vos petits. Donc voilà, c'est un truc important. Faire attention à ce qu'on partage. Je pense à toi, Anaïs, parce que je sais que toi, tu partages pas mal de choses sur les réseaux. Et notamment les trucs de TikTok et tout ça, on ne sait jamais vraiment où ça termine. Donc voilà, toujours bien faire attention. Et même les trucs un peu cryptés, genre WhatsApp et tout ça. Toujours faire attention des informations qu'on partage, parce que ça peut être crypté, ça peut être tout ça. N'oublions pas que derrière, il y a notre cher ami Mark Zuckerberg et sa grande compagnie Meta, et qu'ils sont peut-être géniaux pour nous faciliter la vie et parler avec nos amis du bout du monde. Mais niveau protection des data, ce n'est pas les meilleurs. Donc voilà, on n'oublie pas ça. Un petit mot dernier pour la fin, avant qu'on se quitte, les amis ?
Oui, moi, je voudrais remercier quand même toutes les personnes qui ont apporté leur témoignage, les personnes, surtout du coup, ceux qu'on a rencontrés au centre CH, au centre Accueil Héritage, puisque c'était... on y allait plusieurs fois, ils nous ont écoutés à chaque fois, et ils ont voulu bien faire, ils ont voulu témoigner. Je trouve que c'était vraiment... très généreux de leur part.
Ouais. Guillaume ?
Ben oui, merci aussi à tous les stagiaires qui ont participé. C'était un projet intergénérationnel, comme je le disais à un moment donné, parce qu'on avait des gens jeunes, voire très jeunes, stagiaires coop et autres qui ont permis de faire de la recherche, qui ont permis de créer des contenus. Et évidemment, remercier notre bailleur de fonds, le gouvernement du Canada, avec le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, sans lequel le projet n'aurait pas été rendu possible.
Et toi, Anaïs, une petite dernière bafouille pour la fin ?
Réécouter les épisodes sur toutes les plateformes de streaming, donc il y a Spotify, Deezer, Apple Podcast ou notre site web chocfm.ca.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce projet, et puis merci à vous les auditeurs d'avoir écouté tous ces épisodes. C'était donc le dernier de cette émission Nos aînés connectés. Et je rappelle, et Guillaume l'a souligné, que ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.